Et les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La source de la contamination au coronavirus reste inconnue dans les Hauts-de-France ce matin. Une personne en est morte, une autre est en réanimation au CHU d'Amiens. En France, la définition du cas suspect va changer, vous l'entendrez.
Nous ferons aussi le point sur la contamination plus globale à travers le monde. Plus de 40 pays sont touchés, notamment la Corée du Nord, où le régime contraint les habitants à s'éloigner les uns des autres.
Dans ce contexte, un sommet politique est tout de même maintenu en Italie, à Naples aujourd'hui. Sommet franco-italien, le premier depuis 2 ans.
Attirer des entreprises sur son territoire, est-ce une bonne promesse de campagne pour les candidats aux municipales ? Pas sûr, vous l'entendrez à moins d'un mois des élections.
Et puis le billet politique, ce sera après ce journal. Frédéric Saïs se demande ce matin pourquoi les responsables politiques mettent en avant la notion de bienveillance. Comment deux hommes ont-ils pu attraper le coronavirus sans s'être rendus en Asie ou en Italie et sans avoir été en contact avec un malade connu ? Le premier est mort dans la nuit de mardi à mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il avait 60 ans, enseignait dans un collège de l'Oise à Crépy-en-Valois. Le second est dans un état grave au CHU d'Amiens. À 55 ans, il travaille aussi dans l'Oise à Creil. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Les autorités sanitaires recherchent un éventuel lien entre ces deux hommes.
Et c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui communique sur les investigations. L'idée est de retracer le parcours des deux hommes le plus rapidement possible. Parcours privé, professionnel, mais aussi dans les hôpitaux où ils ont été admis alors qu'on ignorait qu'ils étaient malades. Ainsi, à Creil, où l'enseignant de 60 ans qui est décédé a séjourné en réanimation, le personnel médical a été rappelé en nombre pour retrouver les patients et soignants qui ont été en contact avec lui. Les personnes identifiées devront rester chez elles 14 jours par mesure de précaution. Le service de réanimation est d'ailleurs fermé. Même recherche autour de l'homme de 55 ans, agent civil de défense sur une base aérienne à Creil, hospitalisé au CHU d'Amiens. Les enquêteurs s'intéressent notamment au club de plongée qu'ils fréquentent. L'objectif est de repérer la source de la contamination de ces deux hommes, autrement dit le ou les patients zéro qui pourraient être des porteurs sains. Il ne semble pas que les deux malades se soient croisés. Enfin, plus globalement, Clara, le ministère a décidé depuis hier de tester en France tous les malades atteints d'une pneumonie grave, même ceux qui ne reviennent pas d'une zone contaminée, pour ne passer à côté de personne.
Et puis Tara, pour répondre plus globalement sur le territoire aux inquiétudes, le Premier ministre Édouard Philippe recevra ce matin à Matignon les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires.
Et parmi eux, Marine Le Pen, qui a quelques inquiétudes.
Je vais lui poser des questions sur les chaînes d'approvisionnement, et notamment les chaînes d'approvisionnement de médicaments et de masques, parce que je pense que c'est essentiel quand on sait que 80% des principes actifs viennent d'Asie et de Chine.
Ce qui implique un risque de rupture d'approvisionnement de certains médicaments, estime la patronne du Rassemblement national. Parmi les autres invités ce matin, Aurélien Pradier, des Républicains, qui espère que le Premier ministre évitera toute langue de bois.
Ce qu'on attend, c'est des explications claires, une vraie transparence sur la situation. Ce qui peut créer un trouble, c'est la mauvaise information ou l'impréparation. On va interroger le Premier ministre clairement pour savoir qu'est-ce qui est mis en place, quelles sont leurs inquiétudes. Il faut que le gouvernement ait le courage de dire toute la vérité de la situation, s'il y a une vérité à dire. Quelle situation de crise on a anticipé potentiellement, comment on l'a fait dans les territoires. Vous savez, j'ai été maire pendant des années, donc j'ai une vision très pratico-pratique de ce genre de sujet.
Et les maires d'Île-de-France ont d'ailleurs reçu hier un communiqué, un kit d'information qui leur permet de répondre aux questions des administrés. La réunion est prévue à 11h30.
Merci beaucoup Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à France Culture. Je précise encore qu'actuellement 18 malades connus sont contaminés par le coronavirus en France. Sur le sol français, 2 patients au total sont décédés. L'impact du coronavirus est aussi économique, puisque plus de 40 pays sont touchés à travers le monde. On compte désormais l'Autriche, le Danemark, l'Algérie, la Grèce ou le Brésil. Plusieurs entreprises se préparent à une baisse de leur chiffre d'affaires. C'est le cas d'Air France, qui va donc réduire ses dépenses et ses embauches dans les jours à venir. Chez Microsoft, la chaîne de production est en partie à l'arrêt. Le carnaval de Nice, par ailleurs, est annulé. Moins de tourisme, donc, et des salariés enfermés chez eux. En France, les personnes placées en isolement par précaution peuvent bénéficier d'indemnités journalières grâce à un décret. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le confirmait hier.
Ce décret permet à tous les assurés sociaux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler mais qui ne sont pas malades, de bénéficier pendant une durée maximale de 20 jours d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie sans délai de carence. Ces mesures s'appliqueront également aux parents quand ils ne peuvent pas aller travailler pour rester avec leur enfant.
Voilà pour les conséquences sanitaires et économiques du coronavirus qui se répand. L'épidémie éloigne également les gens les uns des autres. C'est criant par exemple en Corée du Nord, pays voisin de la Chine. Le régime nord-coréen a mis en place une campagne antivirus ces derniers jours et cela isole encore plus les habitants, Élise Delève.
Selon les experts nord-coréens, la stratégie d'isolement est la meilleure pour protéger le pays. Les frontières avec la Russie et la Chine ont été fermées. Pékin est pourtant le principal partenaire économique du régime. Chaque jour, des dizaines de travailleurs et de marchandises passent normalement la frontière. À l'intérieur du pays, les haut-parleurs, qui hurlent d'habitude la propagande du régime, énoncent désormais des consignes d'hygiène et des messages comme celui-ci. Dîner ensemble, parler les uns aux autres, cela peut devenir le terrain principal de la propagation du coronavirus. Il est donc demandé à la population d'éviter de se rassembler dans les lieux publics et les restaurants. Les autorités font également du porte-à-porte pour vérifier l'état de santé des habitants. Toute personne soupçonnée d'être contaminée est soumise à une période d'isolement de 30 jours. Les mesures sont encore plus dures pour les étrangers. Depuis le début du mois, ils sont tous en quarantaine à domicile. Les diplomates doivent rester dans les ambassades, privés de courrier diplomatique. Ils ne reçoivent plus de médicaments ni de fournitures. Même si le régime ne l'admettra jamais, le pays n'a pas les infrastructures capables de répondre à une épidémie et pourrait faire face à un chaos sanitaire. Il est quasiment impossible de savoir le nombre de cas de Nord-Coréens infectés par le coronavirus, mais d'après le régime, il n'y en a aucun.
Alors en revanche, ailleurs, chacun avance ses chiffres de personnes contaminées, plus de 80 000 personnes à travers le monde. Et pour la première fois d'ailleurs, la contamination est plus grande, plus rapide en dehors de la Chine que dans le foyer de l'épidémie. Ce virus perturbera aussi sans doute le sommet franco-italien qui est organisé aujourd'hui à Naples. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Giuseppe Conte vont afficher l'entente retrouvée après les fortes tensions de la période Salvini. Qu'importe d'ailleurs l'épidémie, Louise Baudet.
Pas question de laisser le coronavirus gâcher les retrouvailles. Il est important d'être présent dans ce contexte difficile, souligne l'Élysée. Prévu de longue date, le sommet a été maintenu et réunit pas moins de 11 ministres français et 12 de leurs homologues italiens. Malgré l'épidémie, la France, tout comme les autres pays voisins, n'a pas fermé ses frontières. Mieux, le match de foot Lyon-Juventus et la venue de milliers de tifosi a reçu un feu vert très contesté cette semaine. Mais la qualité des relations entre nos deux pays est à ce prix. Après les mois de turbulences qui ont suivi l'arrivée au pouvoir en juin 2018 de Matteo Salvini. Escalade verbale continue sur fond de crise migratoire, de gilets jaunes en France et d'élections européennes, jusqu'au rappel de l'ambassadeur français à Rome il y a un an, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis, le leader d'extrême droite et ses coups de menton ont retrouvé les bancs de l'opposition et le toujours Premier ministre Giuseppe Conte a opéré un virage à 180 degrés. Migrants, ligne ferroviaire Lyon-Turin, Libye, Paris et Rome sont désormais mais aligné sur de nombreux dossiers. Et le président français pourra mettre en scène tout à l'heure son affection pour l'Italie en général et la ville de Naples en particulier. Deux petites heures d'escapade culturelle dans le centre historique de la ville avant l'ouverture du sommet dans l'après-midi.
C'était notre envoyé spécial à Naples, Louise Baudet.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La campagne électorale des démocrates se poursuit aux États-Unis.
Avant le caucus en Caroline du Sud qui est prévu samedi prochain. C'est le premier État, la Caroline du Sud, à avoir une forte communauté afro-américaine. Elle vote traditionnellement pour le Parti démocrate, comme l'a constaté Isabelle Raymond à Charleston.
Nous sommes à la chapelle Saint-Nicole de Charleston. Le révérend Joseph Darby vient de célébrer la messe du mercredi des cendres. Et pour le pasteur âgé de 68 ans, quelque chose a changé aux États-Unis depuis 2016.
L'atmosphère est bien pire avec Donald Trump. Avant, il y avait un semblant d'amabilité. Les républicains utilisaient discrètement un sifflet pour chien pour exprimer leurs idées racistes. Lui a pris un mégaphone et il ne se gêne pas pour s'en servir.
Ce quartier de Charleston, sans bourgeoise, poussant la population. La population afro-américaine a migré notamment vers North Charleston, à une dizaine de kilomètres du centre historique. Sur le parking d'un restaurant bordant la nationale est garé un autocar noir. Il appartient au collectif Black Voters Matter. Le vote noir compte. C'est la première fois qu'Erika Coakley se rend à une réunion publique. Elle milite pour un salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Il n'y a pas de salaire minimum en Caroline du Sud. Ça met les gens dans la pauvreté, dit-elle. Chez les plus âgés, c'est Joe Biden qui l'emporte. l'emporte largement dans les intentions de vote. Et cela n'étonne pas Jamie Loveglove, un journaliste local.
L'effet Obama est incroyable. Une vieille dame noire m'a dit, vous savez, c'était incroyable de voir cet homme politique blanc, tout ce qu'il y a de plus installé, se tenant derrière un homme noir pendant 8 ans.
Et si la communauté afro-américaine est tellement courtisée en ce moment, c'est parce que c'est la seule à voter quasiment exclusivement pour le Parti démocrate.
C'était Isabelle Raymond à Charleston pour France Culture, avant donc les primaires en Caroline du Sud prévues samedi prochain. Il est aussi question de campagne électorale en France à 3 semaines et demie des municipales. Chacun y vote ses arguments de campagne et les promesses d'emploi reviennent bien souvent. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Pour les jeudis des municipales, Catherine, sous l'angle économique, vous vous êtes penchée sur ces politiques d'attractivité pour tenter de faire venir donc de nouvelles entreprises.
Développer l'immobilier d'entreprise, créer ou renouveler une ZAC, une zone d'aménagement concertée, soutenir les start-up, autant de propositions en bonne place dans les programmes. Sur le plan économique, à travers des politiques financières, foncières ou encore le marketing territorial, de nombreux élus misent le plus souvent sur l'attractivité, avec l'idée que faire venir des entreprises, si possible de grande taille, permettrait de créer de l'emploi. Or, pour l'analyste territorial Olivier Portier, le développement d'entreprises n'implique pas forcément l'amélioration des conditions de vie des habitants du territoire, à l'image de ce qui s'est passé à la Plaine Saint-Denis autour du Stade de France.
On y a créé énormément d'emplois à haute valeur ajoutée qui nécessitaient des hauts niveaux de compétences. On s'était dit que derrière, assez mécaniquement, la situation sociale des habitants du territoire allait être améliorée. Sauf que quand vous créez des emplois de cadre sup sur un territoire donné, que vous avez en face des actifs peu qualifiés, il y a un problème d'adéquation. Et donc vous créez de l'emploi, mais il ne profite pas aux populations locales. Ce qui, de prime abord, est absolument évident. Bizarrement, ça ne l'est pas toujours pour les élus locaux.
Et d'ailleurs, Catherine, cette stratégie est d'autant plus risquée ou inutile que les mouvements d'entreprise sont très rares.
Oui, dans les faits, seuls 1% des entreprises changent de territoire chaque année. Autant dire que les chances d'en voir une arriver et modifier profondément l'emploi local sont assez faibles. Ce que l'on sait aussi, c'est que le tissu productif est très fragmenté, c'est-à-dire qu'il est composé majoritairement de très petites entreprises, souvent fragiles ou en besoin de développement. Et pour l'économiste Olivier Bouba-Olga, les élus s'attellent trop peu à développer et accompagner les entreprises déjà présentes sur leur territoire.
Le problème économique numéro 1 des entreprises aujourd'hui, c'est j'ai besoin de recruter des personnes et je n'y arrive pas. Parfois, parce que je trouve pas des personnes qui ont les compétences. Donc, ça pose la question de la formation. Parfois, c'est je pourrais trouver quelqu'un, mais ce quelqu'un n'a pas le permis. Il n'y a pas de service public. Ou ce quelqu'un a des enfants. Et il n'y a pas de solution de garde pour ses enfants. Il y a toutes ces questions de base qui sont pas vues comme des enjeux en termes de développement économique.
C'est donc une vision plus globale des besoins des habitants du territoire qui est en jeu, et cela d'autant plus que sur le plan strictement économique, les maires ont en réalité aujourd'hui peu de pouvoir, car ce sont les intercommunalités qui ont désormais les compétences en la matière.
Merci Catherine Pétillon. On vous retrouve pour un nouvel éclairage économique sur les municipales jeudi prochain à la même heure. C'est un procès sous haute sécurité qui s'ouvre ce jeudi dans le Pas-de-Calais à Saint-Omer, celui de Redouane Faïd. Un procès en appel pour le braquage d'un fourgon de transport de fonds en 2011. Redouane Faïd s'est déjà évadé 2 fois de prison. À Paris, après une suspension lundi à cause de la grève des avocats, les débats se sont ouverts hier au procès Fillon. Ils ont porté sur des questions de procédure. Pénélope et François Fillon sont toujours poursuivis dans l'affaire des emplois présumés fictifs. Hier, ils n'ont pas pris la parole. Et puis, je vous signale également un incendie dans un immeuble à Strasbourg. Cette nuit, incendie meurtrier qui a tué 5 personnes qui habitaient dans les étages supérieurs de l'immeuble. Un problème électrique pourrait en être la cause. Attention à la neige et au verglas sur le nord-est de la France. Ce jeudi, du Pas-de-Calais jusqu'à la Moselle en passant par l'Oise. Aujourd'hui, la pluie tombera par ailleurs sur la façade atlantique jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, puis laissera de belles éclaircies au fur et à mesure de la journée. Ce matin, comptez 3 degrés à Lille. Il fait 4 à Strasbourg et à Lyon, 6 degrés à Paris, 9 à Marseille, 12 degrés à Rennes et 14 à Bayonne.